est une rediffusion.
RFI, grand reportage.
We have the number of 796.
796, c'est le nombre qu'on a, le nombre d'enfants qui sont morts ici et pour lesquels on a un certificat de décès. Ces pauvres petits n'étaient pas jugés dignes d'être inhumés dans un cimetière. Les religieuses ne voulaient pas qu'on sache que tant d'enfants mouraient. Un bébé décédait toutes les semaines, en moyenne. C'est horrible. C'était de la pure négligence.
Parce qu'elles étaient enceintes et célibataires, que la honte pesait trop lourd, elles ont vécu dans des institutions religieuses. C'était en Irlande, jusque dans les années 90. On leur disait qu'elles devaient payer leurs dettes et donc assurer de très lourdes tâches ménagères. Très souvent, elles devaient y abandonner leur enfant. 23 ans après la fermeture de la dernière Mother and Baby Homes, les survivants continuent de se battre pour faire valoir leurs droits. Illégitimes d'Irlande, oubliés de la République, c'est un grand reportage d'Emeline Vin.
Castle Pollard, au nord de l'Irlande. Un hôtel, un salon de thé, un magasin. Il faut s'éloigner de la placette centrale vers les hauteurs pour tomber sur un hôpital psychiatrique, toujours en activité, et un bâtiment abandonné, gris, envahi par les mauvaises herbes.
Ça, c'est la porte de derrière. Mais il faisait croire aux filles que c'était la porte principale. La porte principale est à l'avant.
Tony Kelly est né dans l'une de ces institutions, les maisons pour mères célibataires, il y a 74 ans.
Parfois, on leur disait de préparer leur enfant pour qu'il soit adopté. Alors, elles montaient à l'étage. Vous voyez la fenêtre, là, au deuxième étage? De là, on peut voir la route qui redescend au village. C'est la dernière vision qu'elles avaient de leur enfant.
Tony a fondé l'association United Survivors Group pour les survivants des maisons. Parmi eux, il y a Sheila Auburn.
Tout a commencé en 1976. Je suis allée en boîte aux Sloopies. On a rencontré une bande de garçons, des étrangers. On a bu quelques verres. Moi, je n'y connaissais rien au sexe. Peu après, je suis tombée malade. J'étais enceinte. Je suis allée le voir, mais il ne voulait pas en entendre parler. Alors, je me suis dit que j'allais devoir me débrouiller toute seule.
Or, dans l'Irlande du XXe siècle, où l'avortement reste criminel, faire un bébé toute seule n'est tout simplement pas envisageable.
Pour les voisins, les gens de la paroisse, j'avais commis le péché originel. C'était une honte terrible. À l'église, on nous disait tous les dimanches à quel point c'était moralement répréhensible. Pourtant, Jésus lui-même était une bonne personne. Il a pardonné à Marie-Madeleine.
Son parcours, ensuite, ressemble tristement à celui de 80 000 femmes passées par les murs des institutions religieuses pour mères célibataires.
L'Église et l'État avaient créé leur propre loi. Je l'ai bien compris quand je suis arrivée à la maison Saint-Patrick. Je suis arrivée, j'ai frappé à la porte, j'ai signé le gros registre. Une fois que vous inscriviez votre nom dans ce registre, c'était fini. Vous étiez leur, vous leur apparteniez.
Dans ces maisons, aux côtés des Madame Tout-le-Monde comme elle, 11% de mineurs, des victimes de viol, d'inceste et des femmes en situation de handicap. À Saint-Patrick, Sheila est chargée de la lessive, de la distribution des repas, de garder les nouveau-nés. Elle mange mal, subit les remontrances au quotidien et les mauvais traitements, comme après s'être opposée à la mère supérieure.
Une fois, elle est arrivée dans la cuisine et a renversé les ordures sur le sol alors que nous étions en train de manger. Elle m'a dit « Je vais t'apprendre à saper mon autorité. Ramasse !» J'ai refusé. Ce n'était pas moi qui avais renversé des détritus. Elle m'a frappée, cogné ma tête contre le mur. Le sang jaillissait de mon nez. Dieu merci, les filles ont ramassé pour moi. J'étais enceinte. Dans la nuit, j'ai décidé d'aller prendre un bain pour alléger la douleur. La mère supérieure est revenue. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a plongé la tête sous l'eau et m'a maintenue sous la surface.
En 2015, l'État met sur pied une commission d'investigation. Après 5 ans d'enquête, 550 personnes auditionnées et 3000 pages de recherche, elle publie un rapport dans lequel elle juge non prouvé les maltraitances physiques. Plus de 40 ans plus tard, Sheila se souvient aussi amèrement des sévices psychologiques.
Je m'étais attachée à une petite, elle avait 15 mois. Les sœurs m'ont dit, elle va être adoptée, tu peux aller avec elle. Je n'arrêtais pas de lui dire, ça va aller, ne t'en fais pas, ça va aller. Elle a été confiée à un couple qui est arrivé, je m'en souviens, dans une Austin Cambridge verte. Je la vois encore, cette petite, blonde, avec une robe à pois bleu marine, ses sockets blanches, ses petites chaussures. Elle hurlait. La sœur m'a dit, Sheila, est-ce que ce n'est pas magnifique de voir les enfants se faire adopter? J'ai dit, oui. Maintenant, prépare-toi pour le jour où ce sera le tien.
Il y a l'accouchement sans antidouleur. Il faut payer, disent les religieuses, pour le péché. Le baptême de son petit Anthony, dont le prêtre profite pour la violer, à côté de son fils. Et puis ce jour de la séparation.
Ils m'ont fait venir sur les marches de Saint-Patrick et j'ai dû le regarder partir. J'ai dû regarder la voiture s'éloigner. Ils l'ont pris.
La famille de Sheila a continué à la soutenir pendant son séjour à Saint-Patrick, sans savoir ce qu'elle subissait entre les murs en briques rouges et versant aux sœurs de la charité un loyer pour prendre soin de la jeune femme. C'est seule, après sa sortie, qu'elle doit officiellement abandonner son enfant.
J'ai reçu une lettre pour que j'aille faire mes adieux. Quand j'ai vu mon fils, je lui ai dit, je dois te faire passer avant moi. On ne peut pas rentrer à la maison à cause des voisins, des paroissiens, de tout le monde. Personne ne nous aidera. Une religieuse m'a dit, signe ici, signe là. Mais elle ne m'a pas laissé lire les documents. C'était des adoptions forcées.
There wasn't a choice. They were all forced adoptions.
Maigre consolation, son fils Anthony a eu et mène une belle vie. Il est ingénieur et Sheila a pu le rencontrer sous la supervision d'une assistante sociale. Retrouver son enfant après la maison pour mère célibataire ou retrouver sa mère pour les enfants reste une exception en Irlande. Noël Brown est née dans la maison de Bessborough à Cork il y a 55 ans. Elle souffrait de ne pas connaître ses antécédents médicaux. Retracer ses origines a été un véritable parcours du combattant qu'elle a entamé en 2002.
Je n'ai atteint le but de mon histoire qu'en 2019, après avoir recouru à un test ADN. J'ai retrouvé mon père, mais il est mort en 2016. Pour ma mère biologique, elle est décédée, elle, longtemps avant que je ne commence à la chercher. Il est tout à fait inconcevable pour n'importe qui que ça m'ait pris autant d'années d'accéder à mon certificat de naissance, mon historique médical, l'histoire de ma naissance, mon lieu de naissance. Ça a été une interminable bataille.
Une bataille menée contre l'Église et contre l'État.
Quand j'ai commencé à rechercher ma mère biologique, en 2002, une religieuse a pris mes coordonnées et a oblitéré l'adresse et le nom de mon père biologique. Plus tard, j'ai été invitée à la télévision pour parler de mes recherches pour accéder à mes origines. Trois jours plus tard, l'agence d'adoption de l'État m'a appelée pour m'informer que oui, ils avaient bien les coordonnées de mon père biologique et me dire qu'il ne me les donnerait pas maintenant et qu'il me plaçait sur une liste d'attente de 2 ans et demi avant de lui écrire de ma part. Je ne leur ai pas fait confiance et j'ai décidé de me tourner vers le test ADN.
Elle apprend plus tard qu'à la naissance, sa mère biologique l'a appelée Nolig, un nom gaélique, que ses parents adoptifs ont choisi de conserver en version française pour qu'elle garde ce lien. Devenue comédienne à Dublin, Noël se sent comme une citoyenne de seconde zone dans son propre pays.
Ça me rend furieuse. L'État interfère dans des affaires familiales, personnelles. On a le sentiment d'être encore stigmatisé du fait d'être adopté, qu'on devrait oublier qu'on est né et se concentrer sur le seul jour de notre adoption, et qu'on nous fait encore payer le fait d'être né hors mariage il y a 55 ans pour ma part.
De son parcours, l'actrice a tiré une pièce de théâtre intitulée Postscript.
That play was written in 2013 and nothing has changed. La pièce date de 2013 et rien n'a changé. À chaque fois que je la joue, je me rends compte qu'elle est toujours d'actualité, car rien n'a bougé. On attend toujours les lois qu'on nous a promises. Pourtant, la société ne nous ostracise plus. Le public nous soutient, les gens sont de notre côté. Ils comprennent, ils en ont assez de nous voir traités comme ça, de ne pas assumer notre histoire, notre sombre histoire. La société a changé et le gouvernement et l'État, lui, ne suit pas.
Society has changed. The government and state have not kept up with that at all.
Le gouvernement irlandais envisage d'accorder l'accès des personnes adoptées à leurs dossiers, leurs certificats de naissance, leurs antécédents médicaux, sous réserve que ces personnes soient sensibilisées à l'importance du respect de la vie privée des parents biologiques. Cela rend furieuse Claire McGettrick, activiste pour les droits liés à l'adoption et fondatrice de l'Adoption Rights Alliance.
Certains d'entre nous ont pu voir des documents originaux et les administrations effacent des pages entières, parfois des données complètement ridicules. Heureusement, nous avons nos propres méthodes pour aider les gens à contourner le système et obtenir des informations. C'est juste que ça prend beaucoup plus de temps. C'est notre argument. On finit toujours par obtenir les informations d'une manière ou d'une autre. Nous sommes responsables, respectueux. Alors, quel est le problème? C'est vraiment insultant de penser que les adoptés ne savent pas respecter les limites. Ce que nous pensons, c'est que la raison pour laquelle on nous bloque l'accès, c'est pour empêcher la vérité de sortir.
La vérité, c'est que parmi les enfants nés dans ces institutions, quasiment tous ont été adoptés. Certains en Irlande, d'autres à l'étranger, comme aux États-Unis.
Les statistiques parlent d'elles-mêmes. En 1966, 97% des enfants nés d'une mère célibataire ont été adoptés.
Conall O'Faharta, ancien journaliste, a consacré 12 ans à ces adoptions.
Comment peut-on penser que le consentement était libre et éclairé? Il est improbable, hautement improbable, que toutes ces femmes aient voulu faire adopter leur enfant. Quand vous vivez dans une société qui considère le sexe comme quelque chose de honteux, qui stigmatise les grossesses hors mariage, vous êtes très limité dans ce que vous pouvez faire.
Pour la commission d'investigation, là encore, pas de preuves que les adoptions étaient forcées, mais en fait... Selon Conall O'Faharta, les femmes n'avaient aucune alternative.
Il était extrêmement compliqué pour une femme d'élever seule son enfant, même si elle le souhaitait. Les structures mises en place rendaient cela impossible. Elle était soit incarcérée dans des institutions comme celles dont on parle ici, ou éloignée, mise à l'écart dans des maisons de retraite pour accoucher seule. On lui faisait signer les papiers sous la pression. Le processus dans son entier était fait pour priver les femmes de leurs droits.
The entire process was designed to strip a woman of rights.
Pas de preuve non plus d'adoption illégale, de falsification des actes de naissance ou d'usurpation d'identité, et pourtant.
In the records of St. Patrick's Guild in 2018, they found 126.
Dans les archives de Saint Patrick, on a trouvé 126 instances de falsification d'actes de naissance, mais 750 autres documents sont suspects. Ça, c'est pour une institution. Si on doit extrapoler à toutes les agences d'adoption, et il y en a beaucoup, ça représente plusieurs milliers.
Le reporter parle de l'Irlande comme d'une plaque tournante du trafic d'enfants jusqu'aux années 70.
C'était un secret de polichinelle à l'époque que si vous vouliez un enfant, il fallait aller en Irlande. Il y avait des couples américains qui débarquaient, allaient récupérer un enfant dans une institution à Dublin, puis parvenaient à leur déclarer à leur propre nom comme si c'était le leur, avant de le ramener chez eux. C'était de notoriété publique que l'Irlande était l'endroit où aller pour avoir un enfant sans garde-fou.
Qui savait, qui organisait? Dans la foulée du rapport de la commission, le gouvernement a accusé la société pour ses mœurs de l'époque. Pour les survivants, pour les chercheurs, la société n'avait pas d'autre choix que de suivre les enseignements d'une église surpuissante en Irlande et financée par l'État, peu regardant sur les pratiques dans les ordres. La vérité sur les Mother and Baby Homes commence à émerger en 2012, grâce au travail de Catherine Corless. Cette historienne amateur se lance dans l'écriture d'un essai sur un établissement à Tuam, près de Galway, dans l'ouest du pays, et prouve que 800 corps de bébés, initialement attribués à la grande famine des années 1840, sont enterrés sous une aire de jeu.
C'est une fosse septique. Les cavités ont été construites pour les eaux usées. Les sœurs de bon secours disaient qu'elles avaient été construites dans le but d'enterrer les corps. C'est faux. On sait aujourd'hui, grâce aux archéologues, que c'était initialement une fosse septique. Il reste même des traces de souillures. De plus, les cavités sont trop petites pour qu'un adulte puisse y pénétrer. Les bébés étaient donc lâchés et empilés, les corps des uns sur les corps des autres. Je ne sais pas comment des gens qui se disent chrétiens peuvent faire ça.
L'Église et les autorités locales ont freiné ces recherches et c'est seulement grâce à l'intérêt de la presse nationale et internationale que ces démarches ont pu aboutir. Les habitants de Tuam ont érigé un petit sanctuaire sur le site. Des guirlandes de cœurs en laine ont été suspendues.
796, c'est le nombre qu'on a, le nombre d'enfants qui sont morts ici et pour lesquels on a un certificat de décès. Ces pauvres petits n'étaient pas jugés dignes d'être inhumés dans un cimetière. Ces bébés ont jusqu'à 3 ans, quelques-uns avaient 4 ans et l'un d'eux 9 ans. Les religieuses ne voulaient pas qu'on sache que tant d'enfants mouraient. Un bébé décédait toutes les semaines en moyenne, c'est horrible, surtout dans les années 40. C'était la pure négligence.
It was just pure neglect. There's a lot of neglect.
Catherine Corless est devenue une célébrité locale malgré sa timidité. Elle le fait pour eux.
Je ne l'explique pas, mais je crois que parmi ces pauvres petits, quelque chose m'interpelle, quelque chose veut rectifier le mal qui leur a été fait. Je n'ai pas de mots à mettre dessus, je ne suis pas religieuse, mais il y a quelque chose.
Le rapport de la commission lui a fait l'effet d'une douche froide. Pour cette frêle sexagénaire, l'Église et l'État sont pleinement responsables. L'Ordre des Sœurs de Bon Secours a présenté des excuses scotchées au portail d'entrée du petit square. Aujourd'hui, Catherine Corless réclame de la dignité pour les bébés de Tuam.
Qu'on les exhume, qu'on analyse leur ADN, ça va prendre plusieurs années, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Pour ceux qu'on ne peut pas restituer à une famille, qu'on les inhume dans le cimetière principal et qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé ici. On pourra ériger un mémorial, un rappel de ce qui avait cours. Voilà ce que je veux. Alors justice aura été faite. Le gouvernement estime que les archéologues pourront commencer au printemps prochain.
À travers l'Irlande, au moins 9000 bébés sont morts dans les modern baby homes. Malnutrition, négligence, surpopulation des institutions, le taux de mortalité dans les maisons a par moment atteint le double de la population générale. De retour à Castle Pollard, la petite ville à la maison pour mères célibataires abandonnée. Au détour d'une conversation avec l'ouvrier communal, Tony Kelly, de l'association United Survivors, a appris l'existence de près de 200 enfants enterrés dans une parcelle au fond du domaine, aujourd'hui recouverte de pâquerettes. Depuis 35 ans, l'ancien champion de boxe a amassé les preuves contre les autorités religieuses et locales. Dans le coffre de sa voiture, des classeurs et des classeurs de documents, à l'intérieur, entre autres, les plans de la ville.
Regardez cette carte. Elle a été conçue en 2016, il y a 5 ans. On voit les bâtiments. Et voyez, pas de cimetière. C'est illégal. Les enterrements doivent avoir lieu dans un cimetière déclaré. Voilà la preuve que nous nous trouvons sur une fosse commune. Et 274 enfants sont enterrés ici. Peut-être plus, car tous n'ont pas été retrouvés. C'est triste, n'est-ce pas? Rien que pour venir ici, nous avons dû marcher sur des bébés. Ce n'était pas voulu, mais comment faire autrement?
We didn't mean to do that. You know, we didn't mean to do that.
À chacune de ses visites, Tony dépose des myosotis sur les petits mémoriaux improvisés, puis effleure les murs. Les gardiens de Castle Pollard y ont planté, année après année, un clou pour chaque petit corps enterré, pour laisser une trace dans la pierre de ces Irlandais illégitimes.
Illégitime d'Irlande, oublié de la République, un grand reportage d'Emeline Vin, réalisation Eva Piedel. Oh.